Salut les rebelles intelligents. Donc je suis actuellement avec Didier Roche. Salut Didier.
Bonjour.
Donc Didier qui je pense que là il y a pas encore beaucoup d'entrepreneurs qui te connaissent, mais je pense que tout le monde connaît l'entreprise que tu as créée puisque tu es le créateur de.
Alors, je suis l'un des cofondateurs des restaurants dans le noir, Spa dans le noir. Donc, j'ai cofondé tout ce groupe-là avec deux autres associés.
Voilà. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, dans le noir, voilà, vous allez dans ce restaurant-là et votre expérience entière de repas se passe dans l'obscurité la plus totale. Vous ne voyez absolument rien et tout est fait pour que vous ne puissiez pas utiliser de lumière. On vous confisque vos téléphones à l'entrée et on fait en sorte que voilà, il n'y a pas de triche possible. Et donc c'est toi et donc tes associés qui avaient eu l'idée il y a quelque temps. On va parler de ça. Et en fait, ce sont des serveurs qui sont aveugles. Qui vont nous guider jusqu'à la table et puis nous servir pendant tout le repas. Et puis bien sûr, pour eux, ça ne change pas grand-chose par rapport à leur quotidien. Donc voilà. Et moi, je peux vous parler d'expérience parce que je suis déjà allé 3 fois au restaurant Dans le Noir à Paris, qui est donc le premier, hein,
Oui, le premier, ouais.
le restaurant historique. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire que je vous recommande fortement. C'est juste, tout est différent en fait. Des trucs aussi simples que remplir son verre, ça demande déjà de comprendre comment on fait pour savoir que le verre est rempli ou pas. D'ailleurs, les serveurs nous expliquent, hein, il s'agit de mettre le doigt là, juste là, et quand vous versez en fait votre vin ou votre eau dans le verre, vous sentez où est le niveau dans le verre. Enfin, vous voyez, c'est simple, mais il y a des tas de choses comme ça qui changent complètement. Et le grand jeu quand on est dans ce restaurant, c'est de deviner ce qu'on est en train de manger. Et moi, à chaque fois, j'ai pu deviner peut-être la moitié de ce que je mangeais et j'ai dû me tromper peut-être sur un tiers des trucs. Parce qu'à la fin, en fait, ils vous montrent une photo de ce que vous avez mangé. C'est juste une grande découverte. Donc voilà, je vous encourage, si vous n'avez pas fait l'expérience, à le faire. Donc on va partir un petit peu au début, à la genèse de ce projet. Donc comment déjà tu as eu l'idée de ça? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée? Est-ce que c'est un de tes associés?
Alors l'idée, elle date elle est très ancienne, hein, dans les années 90 en Allemagne. Un chercheur sur l'essence s'est vu confier une mission d'étude et pour voilà développer son projet, il a imaginé faire un parcours dans le noir absolu et donc il a fait cheminer des gens dans différents univers. Et cette aventure hein, de parcours dans le noir s'est développée dans le monde entier et à un moment c'est venu en France. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Michel Rayac qui avait vécu ça en Allemagne, qui l'a ramené en France. Et à l'occasion d'un festival, c'était le Festival d'Avignon, il a exploité une petite salle qui était à la fin du parcours. Et un soir, il a fait des dîners entre copains. Et là, il s'est dit, mais il y a un truc magique qui se passe. On était dans les années 93. Et il a décidé d'en faire un jour un véritable projet d'animation. Et dans les années 99, il a décidé d'ouvrir à Paris, dans le Festival Paris Quartier d'été, les premiers dîners dans le noir ouverts au public. Et là, il cherchait des partenaires pour bosser avec lui. Et il a rencontré l'association Paul Guinaud, dont j'étais administrateur. Et il a dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de m'aider à faire quelque chose? Et on est parti dans cette aventure-là. On était donc en 1999. Et puis, des expériences comme ça se sont montées un peu partout en France, de manière ponctuelle, en Europe également. Et le premier restaurant officiel est né en Suisse. Et il est né en 2003 en Suisse. Et à l'occasion d'un voyage que l'un des associés avait fait à cette époque-là en Suisse, les amis qui le recevaient l'ont emmené dans ce restaurant. Et Edouard, donc qui s'appelle Edouard, a décidé de faire ce restaurant-là à Paris. Et donc c'est comme ça, lorsqu'il est rentré en France, il a cherché des gens qui pouvaient éventuellement l'aider. Il est évidemment tombé sur moi et Fabrice, le troisième associé, qui nous faisions ça de manière ponctuelle depuis 1999, donc depuis 5 ans déjà. Il nous a demandé de l'accompagner et de l'aider. C'est comme ça qu'on a cofondé ensemble le groupe qui porte les restaurants dans le noir. Alors, on a plein d'autres activités. Tu parlais des spas également. Donc, on a développé ce concept-là dans l'univers du spa, où vous êtes massé dans le noir absolu ou en lumière tamisée selon, mais c'est très, très souvent le noir absolu que les gens choisissent avec des personnes aveugles qu'on a formées pour ça. Et donc, on a décliné tout un tas d'autres projets dans cette entreprise-là. Donc, il y a une agence qui s'appelle Ethic Connection où on va aider les gens à connecter leur public avec la diversité, donc penser des produits, des services autrement que ce qu'ils ne font. Et on a créé des boutiques également. On est implanté dans plusieurs pays, plusieurs continents. Le dernier ouvert, c'était à Melbourne. Là, on ouvre bientôt au Maroc et on est en train aussi de voir pour l'Amérique latine. Voilà, donc on se développe comme ça à travers le monde.
Waouh! Et donc le premier restaurant à Paris, c'était en quelle année?
2004. Il a ouvert
2004.
le 14 juillet 2004. En 12 juillet 2004, pardon.
Le 12 juillet, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la première fois, justement, de l'ouverture? Comment ça s'est passé? Quelles ont été les préparations? Est-ce que vous avez fait des erreurs, etc.?
Alors, il a fallu tout d'abord convaincre la ville de Paris que nous allions faire manger des gens dans le noir absolu en éteignant le fameux panneau exit qui indique comment est-ce qu'on sort de là. Donc, ça a été tout un une discussion, une négociation. Donc, on a été aidé, notamment fortement appuyé par un ami non-voyant qui était... élu à la ville de Paris, M. Amou Bouakaz, qui nous a donc accompagné dans la discussion avec les différents services de la mairie. Alors, on a eu des obligations du type, il fallait qu'on soit en capacité d'être autonome électriquement s'il devait y avoir un problème dans le restaurant. Donc, on a dû mettre en place deux armoires de batterie au sous-sol parce qu'il fallait absolument que voilà, les sorties de secours puissent s'allumer et rester allumées le temps qu'on évacue le restaurant. Je vous laisse imaginer deux batteries de secours. Enfin, je sais pas, on aurait pu tenir pendant 15 jours d'électricité à Paris. Enfin, il fallait les rassurer. Et puis après, ils nous ont demandé, voilà, quelques dispositifs de sécurité contre lesquels on a été, mais il a fallu qu'on leur montre. Par exemple, ils voulaient absolument qu'on rallume plein feu en cas de problème. Alors, il a fallu qu'on fasse venir les pompiers, les commissions de sécurité, qu'on les mette dans le noir absolu. Et puis, à un moment, on a fait une simulation d'évacuation. Donc, on a mis plein feu. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont été aveuglés par la lumière plein feu, les sondes disent non, ça marche pas. On dit bah non, il faut faire comme on vous dit, c'est-à-dire faire des lumières, des petites lumières allumées doucement, sinon on éblouit les gens et du coup on peut pas les évacuer. Donc voilà, on a eu quelques petites surprises comme ça et puis après on a finalement pas ouvrir.
Alors donc, ils ont quand même eu la souplesse d'accepter un concept nouveau.
On a eu la chance de pouvoir, alors évidemment Securitas, Veritas, enfin, tout le monde est passé, on a eu à faire tout un tas de contrôles et on a montré qu'on pouvait assurer la sécurité des gens. On a passé plus d'1,5 million de personnes dans tous nos restaurants et dans toutes nos différentes activités événementielles, parce qu'on en fait plein d'événementiels aussi à travers le monde, sans jamais avoir un seul accident. Donc bon, aujourd'hui, maintenant, quand on intervient, on va dire que c'est un peu plus tranquille qu'au début, mais il a fallu comme ça donc arriver à convaincre les services de sécurité, puis il a fallu aussi convaincre les banques, qu'on n'a pas convaincu. On a eu 13 banques, 13 refus, parce que le modèle n'existait pas. Donc on a dû autofinancer tout le processus de création de boîte et de lancement du groupe.
Et comment vous avez fait pour faire ça?
Alors, Edouard avait pas mal gagné d'argent dans les nouvelles technologies. Et puis, il avait quelques associés aussi, quelques amis hein, qui avaient un peu d'argent à mettre à disposition. Et on a réuni à peu près 800 000 euros. Ils ont réuni à peu près 800 000 euros pour pouvoir démarrer.
Et quelle a été la campagne de promotion pour accompagner l'ouverture de ce premier restaurant?
Alors, par chance, TF1 est vite venu.
Ouais, donc, on a ouvert en juillet.
Alors nous, quand on faisait des concepts qu'on appelait Le Goût du Noir, qui étaient des concepts ponctuels avec Michel Riac et l'association Paul et Liliane Guinaud, l'association Paul Guinaud, dont je parlais tout à l'heure, les médias venaient assez rapidement. Et donc, on avait comme ça toute une liste de médias qui nous disaient, voilà, si un jour vous ouvrez de manière permanente, il faut nous informer, parce qu'on trouve ça tellement génial qu'on s'en fera le relais dans la presse et dans les médias. Et donc assez rapidement, TF1 est venu, on a ouvert en juillet, en septembre TF1 venu, on faisait le 20h de TF1. Le Premier ministre de l'époque est venu également, Raffarin, accompagné par sa femme, donc ça a aussi suscité pas mal d'enthousiasme du côté média, et en fait, le bouche-à-oreille est vite venu, les médias sont venus, et à l'époque, les médias étaient un vecteur très fort de vente, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, les médias font la crédibilité, font la notoriété, là où la vente se fait essentiellement par le web, par la communication que l'on peut faire par le web. Mais à l'époque, ça a marché comme ça, et donc on a très très vite rempli. Au bout de quelques mois, on remplissait rapidement grâce aux médias.
Waouh ! Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que finalement, vous n'êtes pas non plus, vous n'avez pas non plus créé le concept à partir de rien. Donc tu m'as dit déjà qu'il y avait des expériences dans le monde, il y avait eu un restaurant en Suisse, etc. Mais vous avez testé sur le terrain avec ces expériences, donc le goût dans le noir, hein, c'est ça ?
Ça s'appelait le goût du noir.
Le goût du noir, oui.
Ouais. Un concept un petit peu différent où en fait le guide non-voyant non seulement s'occupait du service, mais mangeait à table avec les convives. Ah oui. Ce qui permettait d'avoir un temps d'échange assez fabuleux. Enfin, on a vécu des moments très très étonnants, puisqu'on partageait comme un peu là je peux le faire. Alors sur les thématiques liées plus autour de la vie de la personne aveugle, mais là où le restaurant, on a dû industrialiser le dispositif, puisque sinon les repas auraient été rendus beaucoup trop chers. Et le guide est essentiellement un serveur qui peut échanger un peu avec vous, mais quand même relativement peu de temps, puisqu'il doit envoyer un certain nombre de convives, de places pour pouvoir être à l'équilibre, à minima, voire rentable. Parce que voilà, c'est le business, le modèle est important. Si vous ne durez pas dans le temps, ben, ouais. Vous ne durez pas, quoi. Donc il faut l'équilibre économique à minima. Et si on veut que les business se développent, il faut être excédentaire. Et c'est ce qu'on a rapidement pu réaliser sur le premier restaurant de Paris, c'est d'être excédentaire dans le business.
Et tu avais déjà une expérience entrepreneuriale quand tu t'es lancé là-dedans ou c'était la première fois?
Non, moi j'ai créé mon premier business, j'avais 23 ans, donc j'avais une expérience entrepreneuriale, voilà, puisque ça faisait 10 ans que j'étais dans le business.
Alors tu avais créé un business de quoi?
Alors la première société s'est appelée Ithac,
alors
qui vient du latin Ithacoe, mais c'est aussi le nom depuis laquelle Ulysse est parti pour faire son long voyage. Donc je me disais, voilà, tu te lances dans l'entrepreneuriat, ça va être un peu un long voyage semé d'embûches, ce qui a été le cas. Donc je vendais des produits et des services à destination des personnes aveugles et malvoyantes. J'ai créé le premier site de vente en ligne pour les personnes non-voyantes, enfin sur les produits. Je me suis attaqué à un monopole associatif à l'époque, notamment sur le champ des produits dits quotidiennes. Donc ça peut être les balances, ça peut être les balances parlantes, les balances de cuisine, ça peut être les thermomètres également accessibles aux personnes aveugles, l'horlogerie, les jeux. C'est un monopole associatif et je m'y suis attaqué d'entrée de jeu. Et puis au bout de 10 ans, j'ai vendu cette boîte, comme un peu Ulysse qui a fait son voyage pendant 10 ans. Et je me suis donc retrouvé avec cette boîte vendue. Et puis je me suis lancé dans le groupe là, avec Edouard et Fabrice. En parallèle de quoi, j'ai développé aussi d'autres business que je n'ai pas que les restaurants en noir ou les spas en noir. J'ai d'autres affaires à côté.
Ok. Donc oui, tu avais développé une interface web que donc les non-voyants peuvent utiliser pour commander
un site marchand,
D'accord. Donc c'est avec une machine qui fait des caractères en braille ou c'est de l'audio?
Alors c'est un logiciel qui récupère l'information, qui va l'envoyer tantôt vers de la synthèse vocale, tantôt vers un écran braille ou les deux si on le souhaite.
D'accord.
Et si on a les deux. Donc j'ai pas développé le logiciel qui permet de le faire. J'ai développé une plateforme qui permettait de discuter totalement avec ces fameux screen readers pour lui donner tous les éléments nécessaires à ce que l'information retranscrite en vocal ou en braille soit complètement utilisable et exploitable par une personne aveugle qui viendrait sur ce site. C'était une première à l'époque d'avoir un site marchand totalement adapté, totalement dédié aux personnes voyantes. J'ai développé également à cette occasion le premier marketing direct à destination de cette population-là. Donc en travaillant sur un catalogue vocal, en travaillant sur tout un tas de choses comme ça, enfin, je m'amusais pas mal à l'époque.
Et maintenant, c'est plus le même nom?
Non, ça a été revendu. Le type a absorbé la boîte et il a conservé le département au sein de sa boîte. Sa boîte s'appelle Cecia. CECIAA, et donc il a toute la gamme vie quotidienne qui était à l'origine dans ma boîte.
Waouh, super. Donc, ok, donc tu vends cette boîte, c'était avant que tu t'embarques dans le projet dans le noir ou
Alors, j'étais déjà à titre associatif, puisque je suis un entrepreneur aussi social, donc à titre associatif dans les dîners dans le noir depuis 1999. Donc, cette boîte, je l'ai vendue en 2004, donc tu vois, ça faisait 5 ans déjà que je faisais des dîners dans le noir. Et donc, lorsqu'Edouard est venu nous voir en 2003, j'ai dit banco, on y va, et donc on l'a aidé à monter le restaurant avec l'association, et puis rapidement j'ai pris des parts dans le groupe pour pouvoir développer toute cette aventure des restaurants spa et de la dimension aussi B2B dont je t'ai parlé tout à l'heure avec Edouard et Fabrice au sein de ce groupe.
Et comment ça s'est passé le recrutement donc des serveurs et du personnel dans les restaurants? Parce que j'imagine que c'était quand même une première pour eux de faire ce genre de job.
C'était une première, et donc il a fallu imaginer du recrutement. Donc on a dû faire face à des dogmes. Il y a eu des moments où on a réuni des personnes en nombre, des personnes non-voyantes, avec des associations. Et puis donc on prenait la parole avec Edouard. Donc j'avais dit à Edouard, écoute, tu parles un peu du business, et puis moi je vais être un peu ta garantie face aux éventuelles levées de boucliers qu'il pourrait y avoir. Et il y en a eu. Donc des associations qui ont pris la parole et qui ont dit, voilà, vous n'avez pas honte de faire du fric avec des aveugles, enfin, j'ai le droit à tout ça.
Ça, c'est vraiment typique d'avoir des gens qui vont dire ça, alors que finalement, tu fournis un job super
Une dignité, le fait de la rencontre de la diversité, de la différence, un superbe outil de communication autour du handicap où pour une fois, c'était pas la charité, c'était vraiment le job, donc j'ai tenu ce discours-là. Et des aveugles se sont levés en disant, écoutez, il a tout à fait raison, voilà, on nous redonne un peu de dignité. Et les associations, enfin pour celles qui étaient montées au créneau, se sont vite rassignées et puis voilà quoi.
Donc vous avez tenu bon dans votre vision et votre philosophie. Voilà, ok. Les chiens à bois, la caravane passe.
C'est ça.
D'accord. Donc finalement, vous avez dû créer toute une formation pour ces personnes.
On a dû concevoir des choses qui n'existaient pas effectivement. On a cherché des outils aussi pour faciliter le service, pour faciliter la communication avec les cuisines, avec aussi la partie extérieure où les gens sont accueillis en pleine lumière. Voilà, il a fait tout inventer.
Tout inventer.
Ouais.
Et tout s'est bien passé au final.
Et tout s'est formidablement bien passé au final.
Alors, Les erreurs, il y en a eu forcément. Qu'est-ce que tu pourrais partager?
Des erreurs dans le premier restaurant, pas tant que ça.
C'est vrai? Waouh.
Le concept était. On avait une courbe d'expérience avec les dîners que nous faisions, nos préalables avec Fabrice, que l'on a mis à profit dans ce lieu permanent. On a pu avoir des erreurs de recrutement de manager, par exemple,
Comme dans toutes les
comme
entreprises.
dans toutes les boîtes. On en a eu des mauvais, des très très mauvais, puis on en a eu des bons. Et là, on en a des très très bons aujourd'hui. Donc c'était un peu le challenge de toutes les boîtes. On a eu aussi peut-être des erreurs au départ où en fait on a fait des repas qui moi me plaisaient beaucoup et on a eu des retours relativement négatifs où les gens ne comprenaient pas ce qu'il y avait dans l'assiette. Donc moi j'étais convoqué face à des clients qui se manifestaient comme n'aimant pas la cuisine et moi je goûtais, je venais, je goûtais, enfin, je comprends pas. Et donc on s'est rendu compte que sans la vue, en fait, les gens ont besoin de repères. Et donc on a segmenté l'assiette avec la viande d'un côté, les légumes de l'autre. Et si on mettait plusieurs légumes, on les séparait. Donc on essayait comme ça de favoriser la découverte et de l'aider. Ça, c'était une petite erreur qu'on a pu faire au départ, je pense, que de ne pas comprendre qu'il fallait qu'on conçoive finalement l'assiette autrement. Donc on a mis un peu de temps et puis ensuite il a fallu aussi apprendre au cuistot à faire différemment. C'est-à-dire que c'est bien de servir de l'agneau, mais c'est quand même mieux de servir l'agneau sans le gras. Parce que dans le noir, la personne, elle ne voit pas le gras.
Oui, effectivement.
C'est mieux de servir le poisson sans la peau,
Oui.
le poulet sans les os. Donc il a fallu aussi comme ça avoir tout un cheminement d'apprentissage pour que les gens aient pas l'impression qu'on leur sert de la merde finalement. Et donc s'adapter, se mettre au niveau de la personne qui ne voit pas finalement. Donc ça, on a eu quelques petites erreurs comme ça au départ, de pas veiller à cette partie sensorielle forte qui pouvait être ben, hyper désagréable, quoi, et dire ben, la viande est dégueulasse. Voilà, donc on sert plus de l'entrecôte avec la partie nerveuse sur le bord. Voilà, il faut bien préparer. Donc ça, c'était les quelques erreurs qu'on a pu faire au départ. Mais finalement, pas tant que ça d'erreurs au départ dans la restauration sur Paris et sur Londres. Lorsqu'on a ouvert Paris en 2004 et Londres en 2006, Barcelone ensuite en 2009,
Ah, ça a été rapide quand même.
ça a été relativement rapide.
Et aujourd'hui, ces restaurants existent toujours.
Toujours.
Ouais. Super. Et donc après Barcelone en 2009, vous êtes étendu ailleurs?
Oui, on a cherché à s'étendre à New York.
Alors, on en avait parlé un peu. Tu m'as dit que ça, là, pour le coup, c'était pas. Il n'y a pas eu le même succès.
Ah, il y a pas du tout le même succès. On a fermé New York pour différentes raisons, mais je pense qu'on a mal jaugé le marché new-yorkais avec des erreurs de communication flagrantes au départ, de mon point de vue. Peut-être aussi une erreur de conception de business new-yorkais à l'époque. Et puis donc on a fermé au bout de 15 mois. Alors une des raisons qui moi m'a fait ne pas remettre d'argent au pot et qui m'a fait fermer, c'est que la liquor license, pardon, était attachée au nom du manager avec lequel on avait ouvert.
Donc, il vous a un petit
Le
peu.
manager est parti et on s'est retrouvé à un moment à exploiter un restaurant qui vendait de l'alcool sans avoir la licence, sans plus avoir la licence. Et là, on m'a appelé, on me dit, Dis, on fait quoi? Je suis attendez, on est à New York, on vient d'envoyer nos managers de Barcelone pour tenter de sauver New York. La problématique n'est plus financière, mais elle devient une problématique de droit. Et là, moi, je ne veux pas faire courir la prison au manager qu'on a envoyé depuis Barcelone sur New York, donc on ferme. On ferme et puis on verra ce qu'on fait dans l'avenir, est-ce qu'on y revient ou pas. Donc voilà, moi, la raison qui m'a vraiment poussé à fermer, moi, je croyais au fait de pouvoir remettre en route, de pouvoir rebondir, puisque la vie est faite de rebonds. Mais là, lorsque vous avez la justice new-yorkaise face à vous, en perspective, vous jouez plus. Donc j'ai fermé parce que je ne voulais pas prendre le risque de l'exploitation de vente d'alcool sans avoir l'autorisation. Là, donc on a arrêté.
Oui, donc ça c'est très intéressant parce que finalement, tu t'es heurté à des problèmes que beaucoup d'entreprises rencontrent quand elles veulent bah, s'étendre à l'étranger. En Europe, ça reste un cadre qui est relativement commun avec finalement beaucoup de points communs dans la culture, dans l'environnement législatif. Déjà, les États-Unis, c'est assez différent et c'est un peu plus loin aussi, c'est plus difficile de contrôler. Donc finalement, il y a eu finalement des problèmes parce qu'il y a peut-être eu un peu trop de confiance dans certaines personnes, certaines personnes qui ont peut-être profité un peu de la situation du fait en se disant ces personnes sont loin donc on peut se lâcher un peu plus.
Oui aussi, c'est certain. Alors c'est surtout Edouard qui a piloté New York, puisque c'est surtout lui qui s'occupe du développement international. Évidemment, on était très très en lien et on partageait énormément. Et il y a un moment, le choix de fermer se fait avec les trois associés. Et quand il m'a appelé, il m'a dit « Bon, écoute, voilà mon point de vue, qu'est-ce que t'en penses ?» Je dis « Non, mais Edouard, on ferme, on ne peut pas prendre de risque. » Donc oui, l'éloignement a été aussi un problème. Je pense que si je devais y retourner un jour, je prendrais un associé sur place.
D'accord. Qui soit vraiment impliqué dans l'affaire.
Oui, impliqué dans l'affaire, qui a l'habitude de la restauration new-yorkaise. On a eu des opportunités, on ne l'a pas fait. Et qui soit sur place pour quand même piloter le bateau. Quoi.
Ouais.
Parce qu'à 8000 bornes, c'est compliqué.
Oui, et tu m'avais dit aussi, vous avez fait une erreur dans la communication par rapport à la date d'ouverture.
Alors, ben, voilà, on a ce respect, c'est un pacte un peu moral qu'on a entre les trois principaux associés. Où on se dit, voilà, quand la majorité décide, on y va.
Ouais.
Lorsqu'on s'est réunis en septembre sur la manière de communiquer quant à l'ouverture du restaurant qui devait ouvrir officiellement le 4 décembre, moi je m'étais opposé au fait de communiquer en amont. Ma politique était plutôt de roder le truc et puis au bout d'un mois d'être rodé, de communiquer. Bon, Edouard pensait autrement, sûr de son fait. Donc voilà, les deux associés avec moi ont décidé d'ouvrir. Donc je dis écoutez, voilà, le pacte moral est là, on y va, vous êtes deux, on y va. Et on a ouvert le 28 février.
Ouais, donc vous avez communiqué pour début décembre.
Pour le 4 décembre, et on a ouvert le 28.
Et la presse était en feu.
On a eu CNN et ainsi de suite.
Enfin, et 3 mois plus tard, ils étaient beaucoup moins en feu.
Tu ne les refais pas revenir deux fois. Mmh. Et puis, toutes les semaines, on décalait 700 personnes.
Ouais,
le 14 février, on avait 280 réservations. Moi, je m'effondrais à chaque fois que je voyais qu'on redécalait. Donc, en termes de com', c'est comment réussir à échouer.
Ouais, c'est vrai que ce n'est pas une bonne manière de démarrer.
Ah ben non.
Ouais, exactement.
Donc je pense que, outre le fait que peut-être les New-Yorkais ont une façon de vivre ces business-là un peu différent, peut-être que ce sont des gens qui ont l'habitude de passer d'un business à l'autre, mais c'est d'autant plus pénalisant que s'ils sont réellement comme ça, ce que je suis prêt à croire, au dire d'Edouard, le principal associé qui s'est occupé de cette affaire, le fait de communiquer et d'ouvrir trois mois après, ça ne faisait qu'amplifier le risque d'échouer, quoi.
Waouh, ouais. Et donc finalement, vous avez fermé après avoir perdu beaucoup d'argent.
2 millions de dollars.
Ah oui, quand même. C'est vrai que c'est quand même pas rien.
Ça glace.
Ça glace. Et du coup, vous n'avez pas retenté l'aventure américaine
Pas tout de suite.
Ok. Donc pour l'instant, vous avez des restaurants dans quel pays?
Alors, en nom propre, on a Paris, Londres, Barcelone, Madrid.
D'accord.
On a une franchise à Saint-Pétersbourg et on développe depuis quelques années un nouveau business model qui est de la coproduction. Où on s'installe dans des hôtels. Donc on a dans ce format-là Nantes, on a Nice, et puis on a Melbourne, Auckland.
Wow.
Et là on ouvre, je te dis, on est sur le Maroc d'ici la fin de l'année, où on va être en alternance entre Casa et Marrakech. On est sur des plans à Bruxelles, et puis en Amérique latine, on regarde un peu ce qu'on peut faire.
Wow, donc quand même encore plein de plans de développement. Peut-être qu'un jour vous allez revenir aux États-Unis.
Moi j'ai envie.
Ouais.
J'aime pas échouer quand j'ai le sentiment de pas avoir tout tenté et tout bien tenté. Donc oui, je pense que j'y reviendrai.
Excellent, donc c'est ça aussi l'entrepreneuriat, hein, savoir rebondir après les échecs. Puisque bon, d'ailleurs on pourrait peut-être préciser qu'on s'est rencontrés à l'événement Restart Awards. Donc c'est des prix qui sont donnés pour les meilleurs rebonds après un échec dans différentes catégories. Et donc voilà, toi tu étais dans quelle catégorie déjà?
Économie sociale et solidaire.
Ouais.
Parce que par ailleurs, j'ai monté l'association HUP Entrepreneur qui accompagne les personnes handicapées dans la création, le développement de leur business. Et on s'attache aussi à accompagner les chefs d'entreprise qui deviennent handicapés, parce que ça arrive aussi. Et donc voilà, c'est un parcours que j'ai aussi depuis 10 ans et qui a été remarqué par les Restart Awards.
Ouais, bah oui, d'ailleurs, donc tu as été le gagnant. Hein.
Lauréat, ouais.
De la catégorie. Moi, j'avais été nominé dans la catégorie meilleur rebond après un échec scolaire. Ce n'est pas moi qui ai été lauréat. Ce sera peut-être pour la prochaine. Moi, j'étais un vrai loser, tu vois. Comme on disait, j'ai vraiment respecté le cahier des charges. Donc, voilà. Et donc, oui, ça montre un peu tout ce qu'on peut faire dans la vie, même après un gros échec. Donc, 2 millions de dollars perdus aux États-Unis, ça ne va pas vous empêcher d'y retourner un jour.
Moi, j'y retournerai. Après, est-ce que les autres y retourneront? Peut-être qu'il faudrait que Edouard ait vendu ses parts.
Ah oui, là, il était refroidi.
Bah, c'est une douche. Hein.
Ouais, c'est sûr. Surtout quand là, vous aviez pour l'instant, jusqu'à ce moment-là, un track record impeccable finalement.
Ça allait, ouais.
Ouais, puisque tous les restaurants que vous aviez ouverts à l'étranger, ça fonctionnait bien, ça fonctionne toujours bien aujourd'hui. Et voilà. Ok. Donc, l'entrepreneuriat pour toi finalement, est-ce que tu te verrais faire autre chose aujourd'hui?
Pas du tout.
Ah, c'est vraiment le cri du cœur, là.
Non, non, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez génial. Moi, je suis riscophile. Je suis devenu riscophile parce que j'aime l'émotion que ça procure. J'aime aussi me poser des questions quand je me plante, parce que je n'ai pas planté que New York. Hein, je me suis planté aussi dans d'autres projets. Mm-hmm. Parce que c'est une façon aussi de pouvoir porter un regard sur ce qui vient de se passer, sur comment penser autrement, sur réagir, sur ajuster le tir, sur donc... Voilà, moi, j'aime le risque maintenant. Je ne vois pas m'embarquer dans autre chose que le risque. Je disais il n'y a pas longtemps, j'intervenais dans une soirée autour de l'entrepreneuriat, autour de manière générale des femmes dans le business, et celles qui n'osaient pas aller de l'avant. Je leur disais, vous savez, si vous avez peur du risque, moi, je vous conseille la routine, hein, c'est mortel. Donc, faites ce que vous voulez. Donc, voilà, moi, je suis là-dedans, quoi. Je supporte pas la routine. Mm-hmm. J'aime l'entrepreneuriat. Je pense juste qu'il faut choisir le bon véhicule pour s'éclater. Mm-hmm. Donc, ça peut être une association, ça peut être une coopérative, ça peut être une SASU, une SARL, une fondation, ce que vous voulez. Mm-hmm. Ça reste le fait d'entreprendre, tu vois. Mm-hmm. Donc, et puis, il faut y aller, quoi. C'est la seule chance que l'on ait de donner vie à ses rêves, finalement.
Oui.
Vous rencontrez plein de gens, vous croisez plein de monde. Si vous êtes quelqu'un d'un peu motivant, bah vous emmenez des gens avec vous, puis vous vivez une belle histoire à plusieurs, parce que finalement, c'est ça la vie, c'est vivre des belles histoires à plusieurs.
C'est un très beau résumé. Et du coup, c'est intéressant que tu dises on peut faire ça avec une structure associative. Est-ce que tu ne penses pas quand même que dans l'entrepreneuriat, il y a aussi quand même une idée de rentabilité à un moment, tu vois, pour avoir quelque chose qui puisse se tenir par lui-même ?
C'est non. Non, encore une fois, tu peux faire développer des projets qui ont des caractères fortement sociaux, mmh. Des caractères fortement sociaux. On va essayer d'être bon en français, même si parfois on peut échouer à l'école.
Oui,
n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Non, ça dépend du projet que l'on porte. C'est-à-dire que le business model, il est probablement, dans certains cas, de vendre ce que l'on fait. Dans d'autres cas, c'est de susciter aussi l'appel aux dons, c'est de susciter le... Parce qu'il n'y a pas d'économie possible lorsque tu fais du charity, quoi. Mm-hmm. Parfois, il n'y a pas d'économie possible. Donc, pour autant, ça reste Moi, je développe l'électrification d'écoles en Afrique subsaharienne avec Edouard et Fabrice. Il n'y a pas de business model, quoi. T'arrives, donc tu vas convaincre des chefs d'entreprise de mettre un billet de 5, 6, 7 000 euros sur l'électrification d'une école en Afrique. Mm-hmm. Et puis le retour que eux vont en avoir, c'est ce qu'ils vont pouvoir finalement communiquer en interne auprès de leurs collaborateurs et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de business immédiat, quoi.
Mm. Oui, donc pour toi, l'aventure entrepreneuriale, c'est avant tout se lancer dans un projet qui nous tient à cœur, qui a un peu de gueule, qui nous challenge, qui nous passionne et qui va apporter de la valeur au final.
C'est ça, de la valeur, quelle qu'en soit, qu'elle soit monnayable ou pas.
Mmh. Et t'as fait quoi comme étude d'ailleurs ?
Moi, j'ai fait de l'intelligence artificielle. Je me suis dit que si un jour j'en manquais, peut-être que je serais en programmé.
Donc, t'as pas eu la chance de rater tes études ?
J'ai eu moins de chance que toi.
Ça arrive même au meilleur.
Non, j'ai pas planté mes études. Voilà, j'aimais l'informatique. Mm-hmm. Voilà, ça m'a passionné. Ça m'a permis aussi de concevoir une forme de pensée dans l'intelligence artificielle. On utilise ce qu'on appelle la programmation récursive par moment. Et c'est une façon de penser autrement que de penser de manière ordinaire, qu'on pense plutôt de manière séquentielle. Mmh. Et ça me permet aujourd'hui, j'ai le sentiment de voir où je vais atterrir. Mmh.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Ben, j'arrive à repartir de l'objectif pour arriver au point où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais construire un peu différemment ma manière de penser, ma manière de penser mes modèles économiques, mes modèles de développement. Là où aujourd'hui, on va dire, bon, moi aujourd'hui, je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. Moi, je pars de l'objectif et je démonte jusqu'à aujourd'hui. Je pense un peu à l'envers de ce qui se fait d'ordinaire parfois, quand même, sur mes projets.
Intéressant.
Et donc, du coup, je vais redévelopper ensuite les chemins par lesquels je vais emmener mes équipes pour aller de manière séquentielle vers l'objectif que je me suis construit.
Ouais, donc oui, c'est vraiment un outil de réflexion, de pensée, de
Ouais,
stratégie
aujourd'hui, ouais,
finalement.
ça m'aide beaucoup.
Ouais. Et tout à l'heure, tu disais que tu es riscophile.
Oui.
Ça, c'est intéressant parce que chaque entrepreneur a un rapport au risque qui est différent. Comment toi, tu prends des risques? Est-ce que tu... Parce que grosso modo, j'ai l'impression qu'il y a deux écoles de pensée dans l'entrepreneuriat. Tu as ceux qui brûlent leur bateau derrière eux. Ils arrivent sur une île, ils brûlent tout, ils disent voilà, c'est simple, soit on gagne, soit on meurt. Il n'y a pas d'autre solution. Et d'autres qui sont plutôt en mode lean startup, c'est-à-dire que ils essaient de mettre en place le produit minimum viable avec une petite expérience sur le terrain qui n'a pas beaucoup d'enjeux en tant que tel, avec très peu d'investissement en temps, en argent, en tout cas le minimum possible. Et après, bien sûr, tu as tout un tas de nuances entre ces deux extrêmes, mais souvent j'ai l'impression que les entrepreneurs sont plutôt dans une école ou dans une autre. Toi, comment tu te décrirais? Comment tu prends tes risques?
Comment je prends mes risques? Alors d'abord, j'ai pas d'attachement à l'argent. Pour moi, c'est un moyen. C'est pas une finalité en soi non plus. C'est-à-dire qu'être le plus riche du cimetière, c'est pas mon objectif.
Oui.
De toute façon, on l'emmène pas de l'autre côté, c'est juste un moyen. Donc si je dois miser 10 000 et que je n'ai que 10 000, ben, je les mise.
Ah oui,
Voilà.
d'accord.
Donc ça, c'est mon premier
Mais
risque.
est-ce que c'est 10 000 que tu peux te permettre de perdre ou tu vas aussi risquer, par exemple, je ne sais pas moi, ta maison ou ta chemise,
Bah,
tu
moi
vois?
aujourd'hui, si tous mes business se plantent, j'aurais même plus de
D'accord.
caleçon.
Si tes seules sources de revenus, tu n'as pas investi genre dans l'immobilier, dans d'autres sources de revenus, histoire de diversifier?
Alors, je diversifie beaucoup. J'ai fait des affaires par opportunisme aussi de droite et de gauche. Donc, mais au début, j'ai risqué tout ce que j'avais, quoi. Quand moi, je suis fils, enfin, je suis issu du prolétariat, donc. Voilà, tu pars avec pas grand-chose, et puis tu construis, puis au bout de 25 ans d'entrepreneuriat, tu t'es solidifié dans plusieurs business, tu t'es diversifié. Donc moi, je me suis beaucoup diversifié, mais en m'endettant énormément, et avec un taux d'endettement qui est juste très très important, mais il est partagé sur tout un tas de boîtes. Donc, aujourd'hui, si j'ai une boîte qui se plante, je dois rembourser puisque je suis garant à titre perso. Mais à la limite, ben, tant pis, j'en vends une autre ou je vends des participations dans une autre pour couvrir ce risque-là. Donc,
Tu as un portefeuille, un portfolio aujourd'hui
qui
d'entreprise
me permet.
qui... Oui.
Moi, j'ai encore fait un emprunt que j'ai signé samedi dernier, tu vois. Mais bon, normalement, on ne doit pas me prêter sur cette boîte-là. Mais on m'a quand même prêté parce qu'elle est en fonds propres négatifs, mais on m'a quand même prêté.
D'accord.
Voilà,
Parce
donc.
que tu as étant donné ton historique, le fait que
Ouais,
tu es un
puis
bon client,
c'est
peut-être.
ça, la confiance, c'est aussi ça, l'entrepreneuriat, c'est la confiance que tu peux donner. Donc je suis riscophile aussi dans le fait de me dire, ben, si cette boîte-là, elle se plante, tant pis, l'important c'est de tout y donner, et si elle se plante, elle se plante. Donc j'ai moins d'amour propre sur le sujet de planter une boîte, alors qu'avant, il ne fallait pas que je la plante, parce que j'avais beaucoup d'attachement sentimental aux choses que je pouvais créer. Donc riscophile aussi là-dedans, dans le fait de ne plus avoir cet attachement à titre égocentrique sur la réussite ou pas du projet. Parce que aussi je pense que voilà, mon parcours fait que on te reconnaît pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait. Tu te reconnais aussi au travers de ça. Donc voilà, je me dis, bon, si j'en plante une, voilà, c'est aussi la vie de l'entrepreneur que de se planter de temps en temps.
Complètement, oui.
Puis c'est comme ça qu'on apprend aussi, donc riscophile, parce que non pas j'aime le risque pour le risque, j'aime le risque pour l'adrénaline qu'il délivre, j'aime le risque pour le fait d'emmener des gens, comme je te disais tout à l'heure. Donc c'est en ça que j'aime le risque. C'est pas le risque pour le risque, c'est le risque pour tout ce que ça génère autour, le fait que les gens te font confiance aussi. Donc il y a un moment, tu orientes, tu écoutes, tu prends de ce que les gens te disent, tu avances avec eux. C'est ça, moi, le risque. C'est évidemment le partage.
Ouais. Waouh. Ok. Et tu vois, donc les entrepreneurs ont quand même un état d'esprit qui est assez unique par rapport à celui de la plupart des gens, finalement, parce que déjà cette notion de prise de risque, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à l'accepter ou à le prendre. Est-ce que tu as quelque chose que la plupart des gens estiment vraies et que toi, avec lesquelles tu n'es pas d'accord? Ou est-ce que tu penses peut-être d'une manière que la plupart des gens estiment fausse et que tu penses est vraie, tu vois? Et je cherche un petit peu si tu as une manière de voir les choses qui est un peu différente de celle de la majorité.
Inévitablement, quand on est différent et quand on l'a été tôt, on porte un regard sur les choses qui potentiellement est différent. Moi, j'ai toujours entendu dire « tu peux pas parce que tu vois pas ». Donc moi, ça m'a galvanisé, j'ai envie de te dire.
Tu t'es dit « challenge accepted ».
C'est ça, banco, ouais. On y va, quoi. Donc à chaque fois, j'ai dû imaginer, concevoir des dispositifs, façons d'aller qui contournaient finalement les cadres ordinaires. Donc je suis capable de manipuler des dispositifs qu'aujourd'hui on n'utiliserait pas pour ça. Un exemple qui est par exemple le crédit coopératif, où tu mets un projet sur une plateforme et puis des gens ou des boîtes viennent financer ton projet avec un taux d'intérêt et tu n'as pas de garantie personnelle. Et moi, un jour, j'étais face à un problème, c'est que je devais lever énormément d'argent rapidement. J'avais les boîtes de mon groupe ou des boîtes amies qui étaient capables de me prêter de l'argent, sauf qu'en France, on ne peut pas se prêter entre boîtes, c'est interdit.
Ah oui, tiens, ok.
Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon projet sur une plateforme de crédit coopératif.
Et puis, mes
boîtes sont venues mettre l'argent et là, on m'a dit…
Et là, ça passe.
On n'y a jamais pensé.
Donc, tu as trouvé le hack.
J'ai trouvé le hack. Ouais, j'ai utilisé un système, ce qui fait que mes boîtes me prêtant, je me suis prêté à des taux d'intérêt beaucoup moindres que si c'était des gens que je ne connaissais pas qui venaient prendre le risque.
Et ça, c'est parfaitement légal.
D'accord. Donc, des boîtes ne peuvent pas se prêter directement, mais au travers de plateformes de crédit coopératif peuvent le faire.
Et du coup, à travers de plateformes de crowdfunding, tu penses que c'est possible?
Alors, probablement aussi, sauf que c'est un don direct, donc c'est un peu différent.
Tu as différentes manières de faire du crowdfunding. Tu as les dons et puis tu as aussi des plateformes qui permettent de prêter à des entreprises.
D'acheter des actions.
C'est le crédit coopératif. D'accord. Oui, c'est possible. Ouais. Ouais. Enfin, le crédit, collaboratif. Okay. Pas coopératif, je me trompe, c'est collaboratif. Donc, à partir de là, oui, il n'y a aucun problème.
Est-ce que quand on est entrepreneur en France, il faut savoir hacker les règlements comme ça?
Il faut savoir contourner ce que ton… Enfin, il faut savoir utiliser, parce que finalement, ce n'est pas illégal. Ouais. Il faut savoir utiliser l'environnement qu'on te propose pour pouvoir avancer. Mmh. L'entrepreneur, il a des règles du jeu, puis il joue avec. Il faut savoir le faire.
Il essaie de trouver les règles et de trouver des manières créatives de les utiliser, en restant dans les clous, mais peut-être pas de la manière dont ça avait été prévu par le législateur.
C'est-à-dire que faut savoir avancer, quoi. Faut savoir jouer avec ce qu'on te donne.
Et ça fait partie aussi de l'excitation dans le jeu.
C'est complètement le truc.
Ouais.
Moi, quand j'ai trouvé le dispositif et que j'ai appelé une plateforme de crédit coopératif, il y a eu un blanc téléphone, on a dit c'est juste génial ce que vous proposez là. On y avait, j'ai moins pensé. Et il y a un mec qui a fait un bouquin sur ces modes de plateforme de collaboration et j'ai été cité comme étant le premier à utiliser, du coup j'espère que d'autres l'ont fait, à détourner le système pour pouvoir me prêter moi-même.
Donc en espérant que ça ne va pas être comblé un jour par une loi patch.
Ce serait dommage.
Oui, ce serait dommage. Ouais. Puis bon, avec la démocratisation du crowdfunding et tout ça, ça serait peut-être aller à contre-courant de la tendance actuelle. Ok, donc voilà, on a un excellent exemple. Vous voyez, les rebelles intelligents, hein, beaucoup de choses qui finalement sont communes aux entrepreneurs. La volonté de rebondir après les échecs, le fait qu'on te dise tu vas pas pouvoir et du coup ça te stimule et au contraire tu vois ça comme une source d'énergie finalement plutôt comme une source de découragement.
Et de négociation, parce que moi aujourd'hui j'ai été discuter un autre gros projet là il y a pas longtemps. J'ai dit aux banques, de toute façon, vous me suivez ou pas? Ils me disent, de toute façon, c'est très bien que sans nous, vous allez faire quand même. Donc, on va regarder votre dossier avec sérieux, quoi. Je dis, faites comme vous voulez. Hein. Moi, sans vous, je sais faire, quoi. Ça devient un moyen un peu de pression, quoi. Là où avant, elles faisaient la pluie le beau temps, maintenant, elles ne peuvent plus.
Oui, parce que finalement, toi là, tu montres que tu n'as pas tellement besoin d'eux. C'est bien si je veux le projet, mais ce n'est pas non plus indispensable.
Ce n'est pas indispensable.
Ce n'est pas du tout le même rapport de force, forcément.
Et je vais le faire ailleurs. Quand là, elles ont. Si on cumule tout le projet où j'ai travaillé sans elles, c'est quand même 1 600 000 euros qu'elles n'ont pas vu passer, quoi.
Ah oui. Donc ça, c'est sur quel projet?
C'est sur j'ai racheté un immeuble à Bordeaux pour faire la peau à un mec dans les affaires qui n'était pas propre du tout et je n'aimais pas du tout sa façon de faire. Donc, ça, j'ai été vexé. Donc, j'ai acheté un immeuble par vexation.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est un immeuble que lui avait.
Ouais, enfin, c'est Nestor. C'est un mec un peu glauque qui a voulu prendre l'immeuble après le décès d'une vieille personne. Et il ne se comportait pas bien. Il voulait mettre un papy de 86 ans à la porte et ainsi de suite. Et quand je l'ai appris, ça m'a semblé juste insupportable.
Waouh. Et donc, tu as voulu acheter l'immeuble.
Je l'ai acheté à sa place, ouais.
C'est dingue, ça.
Ouais.
Excellent.
Il s'est comporté comme quelqu'un de puant. Et il m'a pris pour un con parce que j'étais non-voyant. J'ai dit, attends, tu vas voir. Donc, un jour, on m'a appelé, on m'a dit, écoute, on a trouvé le petit vieux, il était en larmes dans le couloir. Et on me dit, il faut faire quelque chose. Je dis, bah, je vais juste lui faire la peau. Mais c'est juste pas possible. Et donc, voilà. Donc, par vexation, j'ai racheté cet immeuble-là. Et donc, bon, je te passe les affres qu'il y a eu autour de ça. Mm-hmm. Et donc, c'est un business sur lequel il va tourner à terme 1 600 000 euros. Mm. Et les banques que j'ai encore vues ce week-end disent, ouais, on était trop cons. Je dis, bah ouais. Il ne faut pas être trop con deux fois, quoi.
Donc là, tu vas avoir l'immeuble et tu vas garder…
Je l'ai l'immeuble depuis 3 ans. Depuis 3 ans.
Et le petit vieux, comme tu dis, il est toujours là.
Donc, j'ai redivisé. Il y a une redivision de l'immeuble qui va être vendue. Mm-hmm. Donc, j'ai reconfié ça à une boîte. Et ils m'ont dit, on fait quoi du papier en bas? Je dis, ben, vous savez très bien. Ils m'ont dit, ben, on n'y touche pas. Je dis, ben, vous avez compris. Mm. Puis, tant qu'il est là, on n'y touche pas. Wow. Dit, mais vous pourriez vendre le truc. Je dis, je m'en fous. J'ai dit, tant qu'il est là, on n'y touche pas.
Wow.
Il a un loyer ridicule, les gens me disent mais tu sais pas faire des affaires, je m'en fous. Un jour il partira et puis voilà.
Ouais.
Puis il m'en touche pas.
Waouh. Donc c'est ça aussi quand tu réussis et que finalement tu gagnes de l'argent, tu peux l'utiliser de cette manière pour créer un peu plus de justice dans le monde.
Je sais, enfin oui, on peut le dire comme ça. C'est moi je supporte pas l'injustice et je supporte pas les gens qui avec de l'argent n'ont pas de scrupules. Toi, il se foutait de la jeune femme non-voyante que j'ai aidée à monter un spa, parce que c'est le spa est dans ce fameux immeuble. Mmh. Il se moquait d'elle. Enfin, c'était insupportable. Quoi. Moi, je ne supporte pas ça. Et le coup de grâce, c'est quand on m'a appelé, les filles du spa m'ont appelé, m'ont dit, écoute, on a retrouvé le papy. Il est en larmes dans le couloir. Il est encore venu le voir. Il a dit, de toute façon, le bail que vous avez est un bail oral, ça ne vaut rien, je vais vous mettre dehors, parce que le loyer est ridicule. Et moi, je te revends, je dis, c'est bon, là, il faut l'arrêter. Mmh. Wow. Il faut juste arrêter.
Ok, donc quel est ton prochain grand projet à part, à part ça donc.
Bah, je vais développer les spas dans plusieurs villes en France.
Donc ça, il faut que je teste. Hein. Donc c'est le massage entièrement dans le noir.
Ouais, dans le noir. Donc on refait toute la boutique à Paris, parce qu'on va développer un concept store qui devrait normalement. Le nouveau spa, on peut y aller hein, là, mais le nouveau spa devrait être en fonction aux alentours du 10 novembre. Mmh. Après, je vais développer une gamme de produits cosmétiques. Donc ça, c'est pour la partie spa. On va continuer le développement international en coproduction. Mm-hmm. On est en train de mettre en place tout un système de ferme qui va produire les produits qu'on va utiliser au restaurant dans le noir. On va utiliser les déchets du restaurant dans le noir pour alimenter la ferme. Donc on va faire du circuit circulaire.
Ah, génial, ouais.
On est en train de monter ça. Voilà pour le... Pour le groupe, en fait.
Waouh, super. Donc, tu as encore de quoi faire pendant un moment, là.
Ouais, ouais. Moi, je rêve d'acheter un centre équestre aussi.
Un centre équestre ?
Ouais.
Et pour faire quoi, tu...
Je sais pas. Ce serait un peu ma danseuse pour les 20 prochaines années. Avoir un centre équestre, ça me plairait bien.
Est-ce que tu ferais ça dans le noir ?
Non.
Ok, d'accord. Le cheval dans le noir. Parce que finalement, ça peut se
décomposer. Oui, sous bandeau, il y en a qui le font. Hein.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, on peut monter. Maintenant, l'idée, c'est un jour peut-être d'avoir un centre équestre et puis de... Peut-être de montrer à des cavaliers qui voudraient venir comment moi je monte et essayer de leur faire passer ma manière que j'ai de percevoir le cheval. Mm-hmm. Voilà, c'est peut-être donc moi ou d'autres personnes non-voyantes ou handicapées pour qu'ils aient de nouvelles sensations, pour qu'ils vivent l'équitation autrement. Mais voilà, ça ce serait la cerise sur le gâteau. Mais un centre caisse parce que j'ai envie d'avoir. C'est un rêve depuis que j'ai depuis très 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 longtemps.
Wow.
Et donc de monter un business model qui fasse que tout le système s'autofinance. Bon, mais ça, c'est pour on ne sait pas quand.
Et tu fais du cheval ?
Oui, je fais de l'équitation depuis pas mal d'années. Ouais.
Et tu fais d'autres sports et...
Je fais de temps en temps du ski aussi, du ski alpin.
Waouh, tu fais du ski ?
Ouais.
Comment ça marche alors ? Dis-nous tout.
Bah, comment ça skie ? Bah, ça skie bien. Ouais. En fait, j'ai un guide derrière moi qui me guide à droite, à gauche, ou qui me dit libre. Donc, quand il me dit libre, je fais ce que je veux, je skie ce que je veux. Voilà. Mm-hmm. Et puis, il me reprend un moment à droite, à gauche, et puis on avance comme ça. Enfin, je fais très, très court.
Ouais.
Et donc, on dévale les pentes. Et puis, quand il y a un moment... Ça devient un peu compliqué quand on veut faire du chousse là, à fond. Il me dit main droite, donc je tends ma main droite comme ça, et il me prend la main et on se lie la main dans la main. Et là, il me dit, c'est un pur moment que de te permettre ça. Il me dit, moi, je te regarde, je te vois tout sourire. Il dit, là, tu n'imagines pas à quel point je suis aux anges, quoi.
Extraordinaire.
Ouais, c'est un beau moment d'amitié qu'on vit tous les deux.
Puis c'est vraiment un magnifique exemple de, voilà, on ne va pas se laisser arrêter par un handicap ou des contraintes si on veut réaliser quelque chose.
Non, avec tous les risques. Moi, voilà, quand je fais du ski, je ne sais pas ce qui va se passer le quart de seconde qui suit. Lui, il prend des risques aussi, parce que parfois, il me fait passer tout près de choses dangereuses, sans panique, tout en dans le zen. Une fois, j'ai tapé un poteau de piste comme ça. Le poteau s'est décroché, donc je suis tombé et j'ai roulé-boulé. Et le filet s'est enroulé autour de moi. Et donc, j'étais complètement saucissonné dans le filet. Enfin, je ne sais pas si tu imagines le truc comme ça dans le bas-côté. Et il vient me voir, il me fait, mais qu'est-ce que tu fais, Didier? Il se marrait, ben, je fais, tu vois, c'est comme ça qu'on pêche le thon à la montagne. Et là, tout le monde autour qui était un peu catastrophé, c'était l'hilarité totale. Et puis voilà, ils m'ont déroulé de mon filet, ils m'ont sorti. Et j'ai remonté sur les skis, puis on est reparti. Est-ce que tu as un peu de sucre?
De sucre?
Ouais, parce que moi, j'ai pas mangé depuis hier soir. Une fois, je skiais comme ça, je sais pas, ça faisait 2-3 minutes que je skiais. Il me parlait plus. Moi, je m'éclatais comme ça, tu vois. Et je me dis, merde, ça se trouve, il est tombé. J'étais paniqué, je fais, Jean-Pierre! Il arrive, il a dû voir ma tête, quoi. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je fais, putain, t'es là? Il fait, ouais, putain, mais j'ai eu peur. Ça fait juste 2 minutes que je suis tout seul. Il me dit, non, je te suis, je suis derrière toi. Je dis, mais j'ai cru que t'étais tombé, quoi.
C'est vrai, du coup, qu'est-ce qui se passe s'il tombe?
Comment tu sais? Il crie. Parce qu'il y a quelqu'un à qui c'est arrivé.
Ah ouais.
Il part.
Ouais.
Et le guide n'a pas le temps de le suivre au démarrage. Et il tombe. Et le guide arrive, il freine, et le guide il dit, mais tu ne te rends pas compte, heureusement que tu es tombé, quoi. Mais il dit, mais tu es mal, monsieur. Il dit, mais attends, lève-toi. Et à 4 mètres de lui, il y avait un rocher, quoi. Incroyable, le mec est tombé à 4 mètres de son plafonné à rocher. Alors une fois, j'avais une copine qui me guidait.
Ouais.
Et elle était en dessous de moi. À ce moment, le guide maintenant est derrière moi, mais avant, je ne savais pas. Donc elle était en dessous de moi. Et donc elle me crie à droite, à droite.
C'était à sa droite, quoi.
Ouais, et je vais à droite et je tombe dans un trou. Oh, bon. Il me crie, non, l'autre droite. Je dis, bah, ça s'appelle la gauche.
C'est ça. Du coup, ça m'interroge que tu n'aies pas mangé depuis hier soir. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que tu travailles beaucoup, que tu n'as pas le temps de manger?
Tu
travailles combien d'heures par semaine?
Je suis pauvre, donc je peux manger qu'une fois par jour. Non, en fait, depuis janvier, je ne prends plus de petit déjeuner.
Ah, tu fais donc le jeûne intermittent?
J'ai découvert que ça s'appelait le jeûne intermittent, mais en fait, je le fais plus par... je me suis rendu compte que je mangeais plus par habitude que je n'avais faim. Voilà, donc je prends un café ou un truc comme ça, mais je ne mange plus et ça ne me manque pas, en fait.
D'accord.
Donc, il y a quelqu'un qui me dit, mais tu sais, c'est vachement bien pour le foie et tout. Je dis, écoute, non, je ne savais pas. Donc, je ne le fais pas par religion ou autre, je le fais parce que... Voilà, j'ai pas envie. Et puis, du coup, j'ai plus de coups de barre qui arrivent. Je me sens mieux. Voilà, c'est juste pour ça.
Donc, est-ce que tu ne manges pas de 21h à midi, par exemple?
Ah non, je peux.
C'est juste que tu sautes le petit-déj.
Je saute le petit-déj. Et quand j'ai les petits déjeuners, parce que ça arrive dans les affaires quand les petits déjeuners, c'est bien volontiers que je mange mon pain au chocolat, mon croissant, je ne sais quoi. Enfin, tu vois, j'ai pas de religion.
D'accord.
C'est vraiment pas une religion. C'est comme ça. Depuis janvier, c'est comme ça.
Donc, même pas un petit café le matin?
Si, je prends un café, et je bois. Par contre, je bois. Bois café, thé, je prends pas de sucre, rien. Et...
Donc, pas de champagne le matin quand même. Quand tu dis que tu bois, c'est le café, thé, d'accord. Okay. Ok, super. Bah, écoute, je pense qu'on a eu un très très beau partage de ta part sur ton parcours et puis ce qui te fait vibrer l'entrepreneuriat, comment tu as démarré dans le noir. Est-ce que du coup, tu aurais un conseil à donner pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que là, ça fait quand même un bon 50 minutes qu'on a démarré l'interview. Là, les gens qui sont encore là, vous êtes ultra motivés, bravo. Bravo d'investir en votre propre amélioration en écoutant des histoires inspirantes comme ça. Donc, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui?
Des conseils, on en a plein, mais d'abord, ne pas avoir comme objectif l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir être sourd de temps en temps. Les gens qui vous donnent plein de conseils autour, très souvent, ils projettent vers vous le fait qu'ils ont eu envie de le faire et qu'ils ne l'ont pas fait. Les gens qui vous disent que, mais attention, c'est pas possible, c'est pareil. À un moment, il faut savoir ne pas les entendre ou ne pas les écouter. Il faut ne pas s'arrêter aux problématiques d'argent. Il faut un projet qui est bien conçu, qui est bien bâti, il n'y a pas de raison qu'il ne trouve pas une résonance financière quelque part. Donc en France aujourd'hui, c'est relativement facile de pouvoir entreprendre. Donc vous avez tout un tas de dispositifs particuliers par l'emprunt solidaire, par les banques. Évidemment, on a vu tout à l'heure le crowdfunding, les crédits collaboratifs et ainsi de suite. Donc il y a plein de solutions, la love money. Donc il faut vraiment d'abord écrire son rêve. Et puis ensuite, on voit comment est-ce qu'on peut le faire financer. On peut le faire financer en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on peut commencer par un petit truc et puis ensuite avancer, construire par briques. Se dire aussi que la première boîte qu'on lance, le premier projet qu'on a, c'est rarement celui dans lequel on va se développer à terme. Mm-hmm. C'est souvent un tour de chauffe. Moi, c'est ce que je remarque. Il faut savoir aussi s'entourer, savoir écouter des gens. Tout à l'heure, je disais ne pas toujours écouter, mais il faut savoir aussi écouter. Mm-hmm. Il y a des gens qui sont des références. Il faut s'inspirer aussi. Il faut être curieux, faut pas être obstiné de manière, j'ai envie de dire, inutile. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir se poser aussi, regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ne jamais perdre de vue que faire un peu plus de la même chose, on obtient un peu plus du même résultat. Et ben oui, donc ce qui vous conduit vers l'échec, si vous continuez, ben, ça va vous renforcer dans la situation d'échec. Ne jamais avoir peur d'échouer, parce qu'on apprend dans l'échec. Ne jamais vivre l'échec de quelque nature qu'il soit comme quelque chose de mauvais. Il faut toujours le regarder de manière positive parce que c'est la chance de pouvoir aller vers autre chose différemment et peut-être davantage réussir. Quand on est en couple, c'est être franc avec la personne avec qui vous partagez votre vie et tenir la parole. C'est-à-dire que la personne ne doit pas avoir l'impression que vous louvoyez, que vous mentez. Si vous donnez des objectifs dans votre couple en lien avec votre entreprise, il faut savoir le tenir. Ben, je serai là, je serai présent pour toi. Ça, il faut le tenir. Ou plutôt dire, si on en est passé ou pas le tenir, ben, je ferai ce que je pourrai. Donc ne pas donner à l'autre ce qu'il a envie d'entendre, lui donner ce que vous allez pouvoir tenir. Ça, c'est très très important. Parce que la vie entrepreneuriale peut se vivre seule, la vie tout court, lorsqu'elle est partagée, eh bien, elle se vit à deux, avec la famille, et elle a un impact inévitable dans votre vie entrepreneuriale. Donc ça, c'est important d'être en phase avec la personne avec qui vous vivez, avec les personnes avec qui vous vivez. Mmh. Moi, je pense que j'ai un peu trop ignoré ça au début, et ça a créé beaucoup d'incompréhension, beaucoup de problématiques, et du coup, on s'enferme. Donc ça, vraiment, arriver à bien penser, à bien marier les deux vies. La vie personnelle aussi est importante. Savoir se donner des bouffées d'oxygène. Le sport en est une. La culture ou autre chose. Regarder Olivier pour s'inspirer de tout ce qu'il produit. Voilà, c'est une façon aussi de vivre sa vie personnelle. Donc c'est un tabouret à trois pieds. Le pro, la famille et le perso. Il faut bien respecter ça. Vous donner des bouffées de déstress. Donc moi, c'est le sport, je sais pas ce que ça pourrait être d'autre. Ça, c'est important aussi de trouver comment arriver à se déstresser. Et puis, ne jamais être avare de ses réussites. Si l'on est relativement seul dans l'échec, on est souvent plusieurs dans la réussite. La réussite a plusieurs pairs. Il faut savoir la partager là où malheureusement l'échec n'en a qu'un. Et c'est souvent l'entrepreneur à qui on accorde volontiers l'échec. Donc par exemple, au Restart World, vous avez vu, je suis monté avec deux personnes, c'était volontaire parce que je souhaitais partager ce restart, ce trophée avec des gens. D'abord, c'était pour moi l'occasion de vivre de nouvelles émotions. J'ai vécu celles qui m'étaient directement adressées, mais celles qui aussi étaient adressées à mes collaborateurs, qui ont été chacun à leur tour applaudis. Donc, c'était trois moments d'émotion. C'est une petite parenthèse dans nos vies dont on se souviendra beaucoup, tout le temps, à trois. Voilà ce partage de trophée. On est redescendu, ils étaient galvanisés aussi pour aller affronter le lendemain, en parler à leurs équipes. Donc c'est aussi un formidable outil de management que de savoir partager sa réussite. Et donc ne pas avoir le petit ego qui génère beaucoup de frustration, mais véritable le grand ego qui s'inscrit dans le partage. Parce que je pense que c'est le seul moyen de pouvoir en jouir, c'est de savoir mettre son ego au service des autres, voilà, plutôt que de le garder pour soi.
Waouh! Écoute, merci pour tous ces conseils. J'espère que vous avez pris bonne note. Il y a plein de choses inspirantes et pratiques à mettre en pratique dans votre vie.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur?
laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.